Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Manger sainement.
La méditation. Échanger avec les autres.
C'est bon pour la santé.
Respecter mon rythme à moi.
Le bénévolat,
c'est bon pour la santé.
On est de bien meilleure humeur.
J'adore cuisiner pour moi, pour mes enfants.
J'ai mille fois plus d'énergie que j'en avais avant.
Pas trop de sucre, pas trop de sel, pas trop de gras. Faut pas virer fou.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon mercredi, j'espère que vous allez bien. C'est Marianne Paquette qui est là, bien heureuse de vous accompagner au cours des 30 prochaines minutes. Vous écoutez l'émission C'est bon pour la santé sur Canal M. Imaginez voir des dragons en plein cœur d'un champ. Ou encore vous réveiller le matin et de voir au pied de votre lit des petits bonhommes tenant un parapluie. Ça semble farfelu et pourtant ce sont des symptômes qui sont liés au syndrome de Charles Bonnet, une infection qui est très courante chez les personnes qui ont perdu une importante portion de leur vision et pourtant c'est très peu connu, on en parle très peu et ce même du côté des intervenants en milieu de santé. Et ça peut causer de la confusion, beaucoup de préoccupations. Parce que le principal symptôme, ce sont des hallucinations visuelles, ce qui peut facilement faire penser que l'individu vit une période de démence ou encore de problèmes de santé mentale. Tout à l'heure, en deuxième partie d'émission, Dr. Jean-Pierre Chartrand, lui qui est ophtalmologiste et porte-parole d'INCA Québec, sera là pour faire un petit peu la lumière sur ce syndrome de Charles Bonnet. Aussi vous dire que le retour à l'école pour un enfant qui a vécu un épisode de maladie et qui a dû s'absenter sur une certaine période de temps, c'est évidemment un synonyme d'espoir, un synonyme de renouveau parce qu'on se dit, bon, le pire est derrière nous, du moins pour un moment. Mais ça peut aussi engendrer du stress chez l'enfant, de l'anticipation, chez son parent aussi hein, et tout son entourage. Et c'est pour ça que ce retour-là doit être planifié, doit être réfléchi, doit être compris également auprès de toute l'équipe du point de vue de l'école, du milieu scolaire. Et il y a plein de variables qui vont jouer sur ce retour-là, le type de diagnostic qu'a reçu l'enfant, le traitement qu'il a reçu, aussi sa personnalité. Tout ça, ça a des impacts sur la reprise de ses activités scolaires. J'en parle aujourd'hui. Comment ça se passe, le retour à l'école après une maladie grave, avec Anne-Marie Touga, professeure en psychoéducation à la Faculté d'éducation de l'Université de Sherbrooke. Anne-Marie Touga, bonjour.
Oui, bonjour Madame Paquette.
Ça se passe bien du côté de Sherbrooke?
Oui, très bien, merci.
Anne-Marie, vous vous êtes intéressée en premier lieu, dans le cadre de vos recherches, à des jeunes traités pour un cancer et vous poursuivez vos recherches maintenant en focalisant sur des jeunes qui rentraient de l'école après avoir bénéficié d'une intervention pour des problèmes psychiatriques. On va y revenir parce que, en premier lieu, je veux parler avec vous de la maladie en général parce que j'imagine que ça modifie beaucoup le parcours scolaire d'un enfant.
Oui, ben c'est certain que lorsqu'un enfant s'absente de l'école pour recevoir un traitement, que ce soit bon dans le cadre de mes travaux de doctorat en rapport avec un cancer ou encore de mes travaux actuels en rapport avec la santé plutôt mentale que physique, ben le simple fait d'être retiré de l'école pour un certain temps, d'être absent et de devoir réintégrer avec parfois soit une apparence ou encore différente ou encore une attitude différente, ça implique, oui, des changements puis des défis particuliers là, pour ces jeunes-là, mais aussi pour les adultes qui les entourent.
Et parfois des séquelles aussi.
Oui, certainement. En fait, si on parle du cancer, il faut pas nier là que les traitements parfois peuvent être plus invasifs, notamment sur le plan cognitif, lorsqu'on parle notamment de radiation ou de traitement de chimiothérapie. Donc, il reste encore aujourd'hui possible que des jeunes qui ont reçu des traitements pour un cancer à plus long terme développent des séquelles cognitives et des difficultés qui vont se se répercuter sur leur performance scolaire, notamment.
Oui. Et j'imagine que le stress, il est ressenti autant du côté de l'enfant que de son parent, parce que si l'on parle, par exemple, des séquelles, on ne sait pas toujours quel genre de séquelles aura notre enfant. Et là, il est confronté soit à un stress à l'école ou encore à des travaux, des études un petit peu plus ardues. Et là, c'est là que ça se révèle. Donc, ça peut être une mauvaise surprise aussi qui se déclare en parcours, là.
Tout à fait. De mauvaises surprises qui peuvent survenir même à plus long terme après les traitements. Donc, même une fois où l'enfant, on considère qu'il est officiellement guéri, là, dans le jargon plus médical, généralement, on va attendre 5 années suite au diagnostic pour vraiment établir la guérison. Mais parfois même après cette guérison-là, c'est là que les difficultés apparaissent. Donc, il faut toujours rester très vigilant pour évaluer ces possibilités-là, notamment en milieu scolaire, puisque c'est le milieu de vie qui va être le plus fréquenté là, par l'enfant le temps de son primaire et de son secondaire.
Ouais. Oui. Le plus fréquenté et qui prend énormément de place dans le parcours d'un enfant. Hein. Pour un adulte, ben, c'est souvent le travail, mais le travail d'un enfant, d'un adolescent, c'est l'école.
Tout à fait.
Cet enfant-là, bon, vivra peut-être ou pas, mais probablement du stress, là, des papillons dans le ventre au départ. Comment on peut le préparer à ce retour-là à l'école?
C'est une excellente question. Bon, il y a quand même plusieurs études qui s'y intéressent. Dans le cadre de ma thèse, moi, je me suis intéressée, disons, à l'adaptation scolaire à plus long terme, une fois qu'ils sont bel et bien, que les enfants sont bel et bien retournés à l'école depuis plusieurs mois. Et j'ai cherché à comprendre quels facteurs pouvaient faire en sorte que ces enfants-là se sentent mieux à l'école. Donc, j'ai regardé leur engagement scolaire. Est-ce que ces élèves-là se sentent bien à l'école? Est-ce qu'ils vivent des relations sociales positives? Est-ce qu'ils se sentent capables de réussir? Et j'ai découvert dans le cadre de ma thèse que les élèves, les enfants, bon, traités pour un cancer, qui avaient développé une vision plus réaliste par rapport à leur maladie, étaient également ceux qui se sentaient mieux à l'école, qui se disaient plus positifs, qui vivaient de meilleures relations, qui se sentaient davantage accomplis à l'école. Alors, évidemment, il y a plein d'autres facteurs, comme vous l'avez nommé tout à l'heure. Il peut y avoir des facteurs médicaux, des facteurs sociodémographiques qui peuvent influencer l'engagement scolaire de ces élèves-là. Moi, je me suis penchée plus sur leur côté psychologique. Comment est-ce qu'ils arrivent à trouver du sens, à faire du sens, si on peut emprunter l'anglicisme, avec la maladie qu'ils ont vécue. Et j'ai remarqué que les jeunes qui étaient à la fois capables de parler des bonnes choses que la maladie avait apportées, mais aussi des choses plus difficiles que ça avait pu occasionner dans leur vie, mais ce sont les jeunes qui semblent le plus à l'aise et le plus heureux à l'école. Parmi mon échantillon.
Donc, une vision équilibrée, plus juste, plus réaliste là, de la maladie. On guide comment notre enfant a développé cette vision-là, parce qu'il y a peut-être une part qui vient de la personnalité, mais j'imagine aussi qu'il y a un petit coup de pouce qui peut venir des adultes signifiants autour de l'enfant.
C'est une excellente question. J'ai pas eu la chance de creuser énormément le côté de l'intervention. Par contre, ce qu'il faut retenir de ce que c'est une vision réaliste, dans le fond, c'est une vision qui est à la fois optimiste, donc une vision qui fait en sorte que l'enfant va conserver quand même des attentes, des aspirations, des attentes positives par rapport à son cheminement scolaire. Donc, il souhaite s'accomplir, il souhaite réussir. Mais la portion réaliste, c'est d'être capable que l'enfant soit quand même aussi en mesure de reconnaître que, ben, écoute, peut-être que moi, là, le fait que j'ai eu un cancer, ça va faire en sorte que ça va me prendre un petit peu plus de temps à faire mes examens. Ça va peut-être faire en sorte que je vais avoir des notes un petit peu moins élevées. Ça se pourrait que dans le cours d'éducation physique, ben, je performe moins que les autres parce que je suis moins vite, je suis moins rapide, j'ai moins de masse musculaire à cause des traitements que j'ai reçus. Mais c'est pas grave, je m'amuse quand même. Il y a comme un aspect où est-ce qu'on devrait encourager davantage les élèves à prendre plaisir, si on veut, au processus. c'est-à-dire à tenter d'atteindre un but et de vivre du plaisir à travers ce processus-là, bien plus que de focusser, si on veut, là, sur le résultat, la réussite, le succès à tout prix. Alors, c'est un l'optimisme réaliste, c'est une attitude qui m'apparaissait très parlante pour illustrer vraiment la situation de ces jeunes-là.
Ouais.
Ceux qui se sentent bien à l'école, c'est ceux qui paraissent les plus optimistes et réalistes à la fois.
On vous écoute, Anne-Marie Tougan, et on se dit que c'est une vision aussi très mature et qui fait preuve de beaucoup de résilience. Ce sont des enfants qui, j'imagine, mûrissent assez rapidement, parfois peut-être plus rapidement que leur âge. Vous avez aussi découvert dans le cadre de ces études que la fratrie avait un rôle très important à jouer.
Oui, tout à fait. Donc, j'ai creusé un peu la question pour voir s'il y avait d'autres variables ou d'autres facteurs qui pouvaient faire en sorte que les élèves qui ont eu un cancer se sentent mieux à l'école. Et j'ai découvert que non, bon, bien sûr, le soutien des parents est toujours très, très important, mais le soutien de la fratrie, puis le soutien qu'ils reçoivent de leurs amis aussi sont très appréciés. Et c'est intéressant parce que ça nous dit, ben, on a tendance à penser que c'est seulement les parents qui sont importants, ou du moins c'est seulement les parents qui doivent être accompagnés dans le rôle qu'ils jouent auprès de l'élève, mais c'est possible que les frères et sœurs aussi ont un rôle à jouer, notamment s'ils sont plus vieux, ben ça peut être un soutien informationnel très important, dans le sens où parfois pour les devoirs, le frère ou la sœur plus vieille peut aider même des fois davantage que le parent, ou encore ben les amis, ben, c'est de reconnaître un que pour les enfants qui ont été retirés de l'école pendant un certain temps, tout l'aspect social hein, reprend enfin vie. Et comme tout jeune normal, les amis, c'est souvent le centre hein, de la vie à l'école. Alors, c'est très, très, très important justement pour les élèves qui ont eu un cancer de se sentir au retour, de se sentir acceptés par leur père parce qu'on voit qu'ils sont confrontés souvent à des défis de ce côté-là. Ils ont peut-être parfois été, soit rejetés ou mal compris de la part de leur père. Ils peuvent avoir un nombre d'amis un peu plus faible que les autres. Et vous nommiez tout à l'heure la question de la maturité. Je vous dirais que pour avoir réalisé des entrevues avec une cinquantaine là, d'enfants, d'adolescents qui ont eu un cancer, j'ai souvent été surprise et je dirais même émue là, à plusieurs reprises de voir à quel niveau de maturité ces jeunes-là étaient capables de partager. Parfois, j'avais un jeune de 9-10 ans devant moi, puis j'avais l'impression qu'il me partageait des réflexions que je me serais plutôt attendue chez un jeune adulte.
Oui.
Alors, c'est des jeunes aussi qui le nomment, qui disent, ben, tu sais, au retour à l'école, j'ai l'impression que je suis plus vraiment comme mes amis. Je suis plus à la même place. Je pense plus aux mêmes choses. Ce qui est important pour moi maintenant, c'est différent de ce qui est important pour mes amis du même âge.
Oui.
Donc, ça change beaucoup.
Les priorités changent, on l'entend bien. Et j'imagine que le frère, la sœur ou l'ami proche, vous parliez du volet informationnel, ben, peut aussi servir d'information à savoir qu'est-ce qu'il y a eu ton frère, pourquoi il est parti si longtemps, c'était quoi sa maladie. Donc, une espèce de filtre un petit peu là, pour véhiculer l'information, ça peut servir à ça. Parlant du volet information, est-ce que l'enseignant devrait mettre au parfum la classe lors du retour de l'enfant qui s'est absenté?
Bien, c'est une bonne question. En fait, il faut toujours que ces informations-là soient transmises, disons, avec le consentement du parent puis de l'enfant. Donc, avant même de décider qu'on va dire ou quelque chose à la classe, il faut s'entendre. Est-ce que la famille est à l'aise à ce que l'information soit transmise? Est-ce que l'enfant a envie que cela se sache? Et si oui, ben une recommandation, ce serait de transmettre l'information, on pourrait dire, le plus tôt possible et de maintenir un peu la présence, même si elle est virtuelle, de l'enfant dans sa classe. Parce que pour préparer les élèves au retour. Par contre, si je peux me permettre un petit parallèle avec les projets que je mène actuellement, de savoir qu'un ami a un cancer, c'est une information qui est quand même plus facile à diffuser que de savoir qu'un ami a un problème de santé mentale.
Voilà.
Alors, on va généralement recommander, oui, de parler du cancer à l'école. Par contre, la santé mentale, là, ça, c'est un thème qui m'intéresse en ce moment pour savoir, est-ce que c'est toujours une bonne chose d'aborder ça plus largement? Il y a encore quand même certains malaises par rapport à la santé mentale. Si les enseignants l'abordent avec, les amis, avec la classe, qu'est-ce qu'il faut dire exactement? Qu'est-ce qui est correct de dire, puis qu'est-ce qui va aider? Là, j'ai pas de réponse à ce sujet-là pour l'instant, mais ça m'intéresse beaucoup de creuser la question.
Oui. Et ce qui est important de mentionner, c'est que en ce qui a trait à l'absence qui est due à une maladie, du cancer, là, notamment chez l'enfant d'âge scolaire, c'est très, très documenté. Quand c'est lié à la maladie mentale, ça l'est très peu. Et c'est pour ça que vous vous penchez sur la question, que ça vous intéresse aussi autant, Anne-Marie Touga. Donc, ce sont des recherches et des études qui serviront énormément dans les prochaines années. Et ne serait-ce que par ce commentaire, à savoir, l'information ne se divulgue peut-être pas de la même façon, on a déjà une grande différence de perception. Vous dites, des fois, l'enfant qui revient d'un épisode de cancer, il y va un peu comme un héros, là. On sympathise avec lui, tandis que quand c'est pour un épisode de santé mentale, de problème de santé mentale, c'est peut-être pas le même rapport.
Tout à fait, tout à fait. Et je pense aussi que la société évolue là, beaucoup depuis les dernières années par rapport à ces deux thématiques-là. Puis on pourrait dire même que par rapport au cancer, on a évolué socialement un peu plus rapidement, probablement grâce à toutes les campagnes de sensibilisation qui ont eu lieu dans les 20 dernières années ou encore les campagnes de financement, si on pense à Leucan, par exemple, qui a fait du beau travail au Québec. Moi, dans les écrits, et ce que j'ai retrouvé par rapport au cancer, c'est qu'il y a quelques années, les grandes inquiétudes qu'on avait à l'école, c'était à savoir, est-ce que le cancer est contagieux?
Ouais.
On n'est plus là, on a vraiment évolué et on a compris cette problématique-là grâce à toute la sensibilisation. Donc, par rapport à la santé mentale, c'est comme si on était en train de refaire un processus semblable socialement et avec les cliniciens, les intervenants avec lesquels je travaille sur le terrain, eux me rapportent que depuis les 5 dernières années, là, il y a une belle ouverture qui se fait et tranquillement, on est de plus en plus à l'aise. Je dirais pas parfaitement à l'aise, mais on sait mieux et on est plus à l'aise d'aborder la santé mentale à l'école. Et il y a une ouverture, une attitude plus ouverte, disons,
ouais.
Là, pour reprendre les mêmes mots, par rapport justement à la santé mentale chez les jeunes. Donc, c'est comme si ça s'en venait tranquillement et il faut continuer évidemment à poursuivre les travaux dans ce domaine-là parce que, comme vous l'avez dit, en rapport avec le cancer, le retour à l'école, c'est bien documenté. On a déjà quand même des bonnes balises sur qu'est-ce qu'on doit faire sur le plan de l'intervention. Maintenant, suite à un problème de santé mentale, la littérature est beaucoup plus limitée et il n'y a pas de consensus à l'heure actuelle sur la façon d'intervenir.
Donc, vous avez entamé ces travaux, ces recherches. On devrait avoir des résultats dans combien de temps à peu près, Anne-Marie Touga?
On a des résultats préliminaires en ce moment, oui, mais des résultats qui pourront vraiment faire l'objet de publications scientifiques. Ça va devoir attendre, je dirais, un an ou deux. Mais c'est assez intéressant ce qu'on trouve, même si la littérature, elle est limitée. Il y a des recommandations qui sont assez parlantes à transmettre. Et c'est un point de départ. Je pense qu'il faut faire un bon état là, de la situation avant là, d'entamer des travaux ultérieurs qui vont vraiment permettre de creuser la question. Là.
Alors, on vous recontacte dans un an, Anne-Marie Touga.
Ça va me faire plaisir.
Je le rappelle, vous êtes professeure en psychoéducation à la Faculté d'éducation de l'Université de Sherbrooke. Merci beaucoup de votre temps. C'était très intéressant.
Ça m'a fait plaisir. Merci à vous.
Au revoir.
Bonne journée.
Votre quartier a mis en place une initiative pour améliorer le bien-être de ses citoyens? Vous avez adopté de nouvelles habitudes de vie et depuis, vous dormez mieux? Votre handicap ne vous empêche pas de suivre des cours de danse? Marianne veut tout savoir sur la santé. Partagez vos expériences à canalm@buzevoix.com ou par téléphone au 1-800-361-0635, poste 220. Suivez C'est bon pour la santé sur Facebook et Twitter.
bien, comme vous l'aurez peut-être deviné, on a du mal à rejoindre le docteur Chartrand. On voulait parler du syndrome de Charles Bonnet avec lui, mais on n'arrive pas à le joindre. On vous propose une autre entrevue avec docteur Dominique Tessier. On parle de voyage. C'est toujours agréable de parler de voyage et encore mieux de prévenir les maladies qu'on pourrait avoir lors de nos séjours à l'étranger. Docteur Dominique Tessier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice médicale des cliniques du groupe Santé Voyage et là pour nous parler de trucs, d'astuces pour voyager en bonne santé. Je le disais tout à l'heure, il y a quand même un gros pourcentage de Canadiens, de Québécois qui reviennent en étant plus ou moins en forme suite à un séjour. Bon, évidemment, maintenant, on voyage partout dans le monde, mais au mois de mars, où on va principalement, du moins ici au Québec, c'est dans le sud, sous le soleil. Est-ce que les précautions médicales sont les mêmes? Parce que j'ai l'impression que lorsque l'on va dans des tout-inclus, bon, on se dit, c'est pas si grave, j'ai pas besoin de mes vaccins ou de faire autant attention.
Ah non, pas du tout. Qu'on aille dans un tout-inclus ou qu'on se loue soi-même une résidence et qu'on aille dans des conditions un petit peu plus modestes, il y a des choses de base qui s'appliquent à tout le monde, tout le monde, tout le monde. Les maladies qu'on peut prévenir par les vaccins, par exemple, comme l'hépatite A, sont liées à l'alimentation et à l'eau courante. Et qu'on soit dans un complexe touristique ou qu'on soit dans une maison privée, il va y avoir des risques en lien avec l'alimentation et l'eau. Donc, il faut se faire vacciner avant de partir. Si on se blesse sur une plage, c'est le même risque de tétanos pour tout le monde, où qu'on soit. Donc, il y a plusieurs risques comme ça qu'on va devoir évaluer selon la destination et selon qui on est comme voyageur, notre propre état de santé à la base avant de partir. Alors ça, c'est pour les vaccins, premièrement. Et deuxièmement aussi, il y a des insectes. On s'en va dans un pays chaud, on s'en va sous le soleil et les maladies transmises par les insectes sont de plus en plus importantes dans toutes les destinations soleil qui nous touchent principalement pour les voyageurs du Québec. On a parlé beaucoup, beaucoup de Zika récemment, qui est une maladie relativement bénigne si on ne pense pas être enceinte, mais le chikungunya, la fièvre d'angue, l'encéphalite, la fièvre jaune, beaucoup d'autres maladies, la malaria aussi, sont aussi transmises par des insectes, parfois le même insecte même, et il faut connaître ces risques-là et savoir comment se protéger.
Souvent, ce qui est déficient lorsque, avant que l'on parte en voyage, c'est la préparation. Comment on devrait se préparer pour partir avec toutes les précautions nécessaires?
Bien, on peut déjà s'informer sur des sites qui sont reconnus. Voyage.gc comme gouvernement du Canada.ca est un bon endroit pour aller trouver de l'information par destination. Et on va trouver aussi à cet endroit-là des conseils pour les types de voyageurs. C'est sûr que tout le monde doit prendre certaines précautions, doit se préparer, doit lire un peu sur les risques dans les pays. Mais si on a déjà soi-même une maladie chronique, des problèmes de santé, de l'insuffisance rénale, un diabète, des problèmes du système immunitaire, qu'on a été traité récemment pour des cancers, il y a des précautions supplémentaires qu'on doit prendre. Le corps ne va pas nécessairement récupérer aussi rapidement. Des risques de complications pour des infections parfois banales vont être beaucoup plus grands. Et on va avoir des conseils particuliers pour ces gens-là. En plus, on va vouloir apporter une petite trousse. On ne veut pas être obligé d'aller consulter, voir un médecin, dépenser parfois des sous de façon importante pour avoir un traitement pour une diarrhée du voyageur. La diarrhée du voyageur, on parle d'un risque d'à peu près 50 % des voyageurs dans les destinations soleil. C'est beaucoup. Donc, on part avec déjà ces antibiotiques pour se soigner. Et bien sûr, des conseils d'avance pour savoir quoi faire pour ne pas l'attraper autant que possible. Et dans certains cas même, on va prendre un vaccin pour éviter la diarrhée du voyageur, surtout si on est plus à risque de complications à cause de notre état de santé.
Oui. Est-ce que l'on devrait se renseigner sur le système de santé du pays que l'on va visiter?
Les informations sont très, très, très sommaires, sont peu disponibles. Il n'y a pas un seul site qui peut nous donner toutes les informations sur les lieux. Par contre, c'est sûr que si on a un problème particulier, là, il existe certaines ressources. Par exemple, il va y avoir des ressources sur les dialyses qu'on peut avoir à l'étranger si on a une insuffisance rénale. Ça, il existe des cartographies assez bonnes dans le monde pour savoir où prendre rendez-vous et tout ça, parce qu'il faut prendre des rendez-vous pour avoir ces traitements en voyage quand c'est nécessaire. Mais sinon, on n'a pas de bonnes informations et ce qu'on recommande, dans le fond, c'est de faire tout ce qu'on peut pour ne pas avoir à consulter dans le milieu de santé en voyage.
Oui.
Les assureurs, il faut prendre une assurance voyage, bien sûr, parce que la régie de l'assurance maladie ne couvrira pas pour tout. Et les assureurs peuvent être une bonne ressource, par contre, s'il arrive quelque chose, d'autant plus qu'il faut les appeler d'avance pour faire préautoriser les paiements de l'endroit où on va consulter.
Oui.
Et eux, ils ont des bonnes listes quand même d'endroits reconnus où on se trouve.
Bien, tout ça, ce sont des bons conseils parce qu'on part en voyage pour se reposer. D'abord, Dr. Dominique Tessier, vous êtes directrice médicale des cliniques du groupe Santé Voyage. Merci beaucoup.
Bon voyage.
À vous aussi. Au revoir.